France Inter.
En raison d'un mouvement de grève lié à la défense du service public audiovisuel français, je ne déposerai pas le message. Bisous.
Salut Blockbuster, c'est Arthur. Bonjour Frédéric. Et ben pour le début de la dernière saison, waouh, quelle émotion. Moi je voulais partager un souvenir, c'est l'émission spéciale Miyazaki, parce que je faisais Nice-Paris en voiture de nuit et vous m'avez accompagné tout le trajet, des gens intelligents qui parlaient avec passion d'un sujet qui est extraordinaire, d'un homme extraordinaire, et vraiment je garderai ce souvenir de ce moment qu'on a passé ensemble, en fait, pendant toute cette nuit, pendant tous ces kilomètres. Et vraiment, vous m'avez accompagné. C'était tellement intelligent, tellement drôle, tellement plein de belles choses. Voilà, c'est un des souvenirs de Blockbuster que je garderai. Alors, un grand, grand merci.
Bah, salut Fred, salut à toutes et à tous. On a perdu Eric Legrand, donc pour ceux qui ne savent pas, c'était Vegeta. Et Claude Giroux, qui était la voix de Tommy Lee Jones, en fait. Hein. Et voilà, on perd nos voix françaises, là, les uns après les autres. Après, être parti pour vrai, tout ce qui va bien avec. Tu devrais faire une émission spéciale, les voix françaises. Merci, salut.
Tic-tac, 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 tic-tac. C'est bientôt l'heure. C'est bientôt l'heure de Blockbuster. Tic-tac, tic-tac. Et c'est parti.
To be or not to be, not to be.
À l'heure où Fabienne Saintès est sur le point de débrancher son téléphone afin qu'il ne sonne plus pendant presque deux mois, au moment où Nicolas Demorand va enfin pouvoir redécouvrir qu'une nuit de sommeil c'est 8 heures et non pas 3, à l'instant où Ali Rebehi va enfin pouvoir vérifier si les graines de chia sont effectivement un bienfait pour le microbiote intestinal, la grille d'été reprend ses droits. Une grille d'été un peu spéciale pour moi, car elle marquera l'ultime saison de Blockbuster après 9 années d'existence. Et oui, c'est le cœur lourd et la mort dans l'âme que je dois vous annoncer que j'ai décidé de prendre la présentation du journal, non pas de France 2, je laisse cela à ma consoeur Léa Salamé, mais celui du journal de TF1. Même si TF1 n'est pas au courant. Non, je déconne, je serai incapable de présenter un JT, même pas en rêve. J'aurai l'espérance de vie d'un dragibus dans une cantine scolaire. Moi, le premier ministre ou le député mis en examen 8 fois qui vient me parler de tolérance zéro ou de peine planchée, même pas je lui laisse terminer sa phrase. Hein. Circuler, monsieur, faut pas rester là. Hein. C'est une maison sérieuse ici, on peut pas balancer des âneries comme ça tout le temps. Il y a des gens qui pourraient vous croire. Tous les jours énoncer des horreurs avec le flegme d'un porte-manteau qui parle, trouver le bon terme qui froisse personne pour parler de femmes et d'enfants qui se font bombarder, moi je ne saurais pas faire. Entendre des experts ou des artistes s'exprimer détendus du slip sur des populations en guerre alors qu'ils font tamponner leur visa dès qu'ils sortent du 16e arrondissement, franchement, je n'aurais pas la patience. Non, moi ce que j'ai toujours su faire, c'est donner la parole à des passionnés passionnants qui font mal à personne. Et pour cette ultime saison, ce sont les auditeurs et auditrices eux-mêmes qui ont choisi la programmation des sujets via un vote organisé sur mon compte Instagram. Alors j'étais pas forcément d'accord avec tous les choix, mais s'il y a bien une chose que ce beau pays m'a appris, c'est qu'il n'y a rien de plus important que de respecter le vote des Français, n'est-ce pas ?
France Inter, Blockbuster,
juste ici ça va.
Frédéric Siglist.
We're gonna make a fortune with this place.
Faire une fortune avec ce parc.
How fast are they?
Ils sont rapides.
Well, we clocked the T-Rex.
Nous avons chronométré le Tyrannosaure Rex à 40 km/h.
T-Rex?
Mm-hmm.
Vous avez un T-Rex?
You said you've got a T-Rex.
Uh-huh.
Vous dites que vous avez un T-Rex?
Say again.
Redites ça.
We have a T-Rex.
Oui, nous avons un T-Rex.
Oh. Put your head between. Mets ta tête entre les genoux.
Professeur Grant. Mon cher professeur Sattler.
Welcome.
Bienvenue.
To Jurassic Park.
À Jurassic Park.
En 1993, Steven Spielberg redevient le maître incontesté des blockbusters sur grand écran avec Jurassic Park. Un film où on t'explique que des savants sont assez intelligents pour recréer des dinosaures, mais pas assez pour savoir que c'est pas une bonne idée. Porté par une mise en scène incroyable et des effets spéciaux inédits pour l'époque, Jurassic Park triomphe sur les écrans du monde entier et devient une des franchises les plus lucratives du cinéma hollywoodien. Alors qu'un septième opus sort sur nos écrans cette année, avec Jurassic World Renaissance, on se demande qui des scientifiques ou d'Hollywood a le plus intérêt à recréer inlassablement ces dinosaures de parc d'attractions, même quand ils mangent un tout petit peu les visiteurs. Et pour répondre à cette épineuse question, je suis en compagnie de Nicolas Allard, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes professeur agrégé de lettres modernes, vous avez co-dirigé l'ouvrage Jurassic Park et les sciences, paru aux éditions Belin, et vous avez aussi préfacé la réédition du roman originel de Michael Crichton, Jurassic Park, paru aux éditions Pocket.
Oui, exactement.
Avec nous, Florian Sorin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez co-créé le site JurassicPark.net qui regroupe la communauté francophone des fans de la saga dinosauresque.
Tout à fait.
Avec nous, de retour et on est ravis, Renaud Besbourdier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, dramaturge et rédacteur en chef du site web Cinématrack et votre livre consacré au réalisateur hongkongais Chang Che est publié aux éditions Spectrum.
Tout à fait.
Don't you see the danger?
Mais John, vous ne voyez pas le danger?
John, inherent.
Le danger inhérent à ce que vous faites ici, le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père.
Ce n'est vraiment pas le moment de commencer à énoncer des généralités.
Si vous permettez, je vais vous dire que le problème qu'il y a avec le pouvoir scientifique dont vous usez ici, ne requiert aucune discipline pour l'atteindre. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique. Et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre sans ça.
Écoutez, je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur. Nos savants ont fait des choses que personne n'avait faites avant.
Oui, mais vos savants étaient si préoccupés parce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit.
Vous venez d'entendre un extrait du film Jurassic Park réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1993. Le professeur Ian Malcolm est évidemment joué par Jeff Goldblum et doublé en français par l'inénarrable Richard Darbois. Nicolas Allard, avant de parler du Jurassic Park et du film de Spielberg, il y a donc le roman de Michael Crichton.
Oui, exactement, Frédéric. Et c'est un très bon roman, d'ailleurs, que Pocket, effectivement, vient de rééditer en édition collector et dont j'ai eu le plaisir de signer la préface. C'est un roman qui a été publié en 1990. Michael Crichton, à ce moment-là, n'est pas un inconnu. C'est un grand écrivain américain, spécialiste du techno-thriller. Donc, le techno-thriller, c'est un type de texte où on a une enquête qui va donner beaucoup d'importance aux sciences, qui vont être aussi bien un problème qu'une solution dans l'intrigue. Et donc, ce roman a été publié en 1990, mais Michael Crichton a travaillé dessus pendant de nombreuses années et ça a été tout de suite un best-seller, un grand succès. C'est un roman notamment qui a marqué les esprits parce que les récits qui proposent des histoires où on trouve aussi bien des hommes que des dinosaures existent depuis le 19e siècle avec le développement de la paléontologie. Donc on va avoir notamment Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, ensuite Le monde perdu d'Arthur Conan Doyle, Le cycle de Pellucidar d'Edgar Rice Burroughs. Et puis les années vont passer et Michael Crichton, lui, va se réapproprier finalement ce type d'histoire, mais en essayant de présenter finalement un rapprochement entre l'homme et le dinosaure de façon crédible, puisqu'il s'appuie sur les progrès de la génétique, en imaginant la possibilité que les dinosaures puissent être recréés à notre époque. Une idée qui est assez formidable et qui va donner lieu justement à un roman non seulement très bien accueilli par la presse, mais qui va tout de suite susciter un grand intérêt de la part d'Hollywood, puisque le roman va être racheté l'année même de sa publication en vue d'une adaptation cinématographique.
Oui, comme vous l'avez dit, et j'aimerais qu'on insiste là-dessus, il y a eu un souci de, non pas d'authenticité scientifique, mais il y a vraiment eu énormément de recherches qui ont été effectuées par Michael Crichton pour écrire Jurassic Park.
Oui, avant Michael Crichton, il y a un écrivain australien, pas très connu du grand public, Harry Adam Knight, qui avait écrit un roman qui s'appelle Carnosaur, qui est sorti dans les années 80, où il utilisait là aussi la génétique pour expliquer la possibilité que les dinosaures et l'homme puissent être confrontés dans une même histoire. Mais c'est un roman qui n'était pas très abouti et donc qui a été très largement méconnu. Et Crichton, lui, au cours des années 80, a le projet d'écrire sur les dinosaures. Ce sont des animaux qu'il fascine depuis très longtemps. Et donc, il va beaucoup se documenter avant d'écrire son roman. Il va consulter des généticiens, des paléontologues. D'ailleurs, dans les remerciements du livre, à la fin de celui-ci, il insiste bien sur tout ce qu'il doit à ces scientifiques qui lui ont permis finalement d'élaborer son histoire. Puisque Crichton, je l'avais montré dans un autre dans un autre de mes textes, c'est un des héritiers de Jules Verne, et comme Jules Verne, il considère que la science-fiction doit être le plus documentée possible, donc il n'est pas toujours spécialiste des sujets qu'il va évoquer dans ses romans, mais par contre, il fait toujours en sorte d'avoir beaucoup d'informations les plus fiables possibles pour raconter son intrigue et veiller à ce qu'elle soit le plus crédible possible aux yeux des lecteurs.
Florian Serin, vous avez co-créé le site JurassicPark.net qui regroupe la communauté francophone des fans de la saga Jurassic Park. Est-ce que vous avez d'abord été séduit par le film de Spielberg ou plutôt par les écrits de Michael Crichton ?
Alors, j'ai d'abord rencontré le livre de Michael Crichton à travers une publicité dans un magazine. Et à cette époque-là, donc j'étais relativement jeune, j'avais 8 ans, et ironiquement, mon premier ressenti, c'était que ça allait sans doute être nul, parce que je voyais bien que c'était un livre pour les adultes. Et à l'époque, moi, j'étais un petit garçon très fan de dinosaures, et l'expérience que j'avais quand je parlais de dinosaures aux adultes, c'est que soit ils n'y connaissaient rien, soit ça ne les intéressait pas. Donc, j'avais eu ce premier ressenti vis-à-vis du livre, et puis ça m'est très vite passé quand la campagne marketing du film, cette fois, a déboulé en France, où j'ai été directement embarqué par ce qu'on appelait à l'époque la dinomania. Et à partir de là, j'ai tanné mes parents pour pouvoir aller voir ce film Jurassic Park au cinéma, qui a été le premier film que j'ai vu dans un vrai cinéma. Et d'une certaine manière, je m'en suis jamais vraiment remis.
Et est-ce qu'il y a des différences entre le roman et l'adaptation qu'en a fait Steven Spielberg ?
Oui, bien sûr. Alors, sans rentrer dans le détail, d'une manière générale, la trame se suit à peu près. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence en termes de vision entre celle de Michael Crichton, qui était réellement de une mise en garde envers la science et ses dérives, avec parfois une remise en cause assez dure des méthodes scientifiques et de peut-être du double jeu que peuvent avoir les scientifiques vis-à-vis de l'argent. Alors que je crois que la vision de Steven Spielberg, même s'il reprend le personnage de Ian Malcolm, et qui porte ce message-là, la vision de Steven Spielberg, je pense qu'elle est plus axée sur l'impossibilité de réaliser un rêve sans en payer les conséquences. Et c'est plus cette vision-là qui m'attire, moi, en tant que passionné de Jurassic Park. Mmh.
Renaud Besbourdier, alors vous, là, je m'adresse au scénariste, au dramaturge, est-ce que vous avez vu une différence de thématique entre le livre de Crichton et le scénario tel qu'il a été mis en image par Steven Spielberg ?
Oui, effectivement, je rejoins assez ce qui a été dit à l'instant, ne serait-ce que sur le personnage du créateur du parc, qui est plus en avant, en fait, dans le film que dans le
John
livre.
John Hammond.
John Hammond, tout à fait, qui sert au final un peu d'alter ego de Steven Spielberg, puisque lui aussi, en fait, est amené par le cinéma à recréer les dinosaures et à justement s'interroger sur qu'est-ce que c'est que créer un film de la sorte, de repousser les limites de la technologie, non pas de la science pour recréer des dinosaures dans la vraie vie, mais les recréer au cinéma et ainsi faire amener le cinéma blockbuster dans une nouvelle ère, une nouvelle phase, avec tout ce que ça peut avoir de néfaste aussi derrière.
Et ce qui est intéressant justement dans cette mise en abîme du réalisateur qui recrée des animaux via l'image de synthèse, c'est de voir aussi que c'est le Steven Spielberg qu'on a connu avec Les Dents de la Mer, un film dans lequel un animal mécanique était l'antagoniste et le but c'était vraiment de le tuer. Sauf que là, dans les Jurassic Park, c'est une constante, on a les antagonistes, ce sont les dinosaures, ils mangent des gens, ils mangent des visiteurs, mais on ne les tue pas.
Tout à fait, et il y a une autre constante qui est, et parce qu'il me semble que Spielberg a lui-même dit qu'il cherchait justement à faire une sorte de suite spirituelle aux Dents de la Mer avec ce film-là, et il y a aussi une dimension qui est le travail du hors-champ. C'est-à-dire que dans Les Dents de la Mer, on voit très peu le requin. Ici, on voit beaucoup moins les dinosaures qu'on ne les voit dans le livre, et on voit beaucoup moins le parc également. Ce qui permet aussi aux spectateurs d'imaginer beaucoup plus par rapport à tout ce que l'on voit. Et ce qui fait grandir en fait l'imaginaire autour du parc, autour des dinosaures, avec un film qui finalement les montre très peu.
Nicolas Allard, Michael Crichton est évidemment l'auteur de Jurassic Park, mais c'est aussi l'auteur d'une autre œuvre qui est très connue de la sphère des amateurs de science-fiction, c'est Westworld. Et il y a cette dimension de parc d'attractions qui était déjà aussi présente dans Westworld.
Oui, c'est ce qui est intéressant avec Jurassic Park, c'est qu'en fait, c'est presque une réécriture de Westworld. Westworld, donc, c'est le premier film que Michael Crichton a réalisé au cinéma. Il avait réalisé auparavant un film qui était pour la télévision. Et donc, c'est un film qui sort au début des années 70. On est donc dans un parc d'attractions futuriste. On permet aux clients de vivre en immersion, alors soit dans l'Ouest américain, dans la Rome antique, ou alors dans le Moyen-Âge européen. Et effectivement, donc, ce sont des androïdes ici qui permettent de donner cette illusion de la réalité, parallèlement aux décors qui sont réalisés. Et il va y avoir un dysfonctionnement qui va mettre en danger finalement la vie des clients. Donc, on passe du rêve au cauchemar, comme dans Jurassic Park. Et en fait, Crichton aimait beaucoup cette idée de Westworld, mais il estimait finalement qu'elle n'avait pas vraiment le potentiel de devenir un roman. Alors qu'avec Jurassic Park, il avait plutôt cette idée-là. Il estimait, et c'est une des grandes trouvailles de Crichton, qu'on pouvait y mêler des réflexions bioéthiques, philosophiques, ce qui fait d'ailleurs que son roman est un roman très riche, parce que c'est aussi bien un grand roman d'aventure, avec des péripéties qu'on ne trouve pas, par exemple, dans le film de Spielberg, notamment pour des raisons techniques, parce que ça aurait été beaucoup trop coûteux à l'époque. Également, un roman où il y a des réflexions très intéressantes sur notre rapport à la nature, notre capacité à nous prendre pour des dieux parce qu'on possède une technologie qui est de plus en plus élaborée. Et donc, en fait, on pourrait dire que Jurassic Park, c'est un peu le Westworld 2.0, c'est-à-dire que c'est le même procédé ou le même principe que Westworld, mais avec des réflexions qui sont beaucoup plus poussées et qui vont nous amener tous à nous poser des questions, non pas simplement en tant que spectateur, mais aussi en tant que citoyen sur notre rapport à la nature et au monde du vivant.
Nous sommes ensemble pour parler brachiosaures, vélociraptors, mais surtout de T-Rex. Et T-Rex, c'est aussi le titre de la chanson que l'on va écouter, issue de la bande originale d'un film d'animation que je vous recommande une fois de plus de ne pas louper, Nimona sur Netflix.
Past behind.
Can't stop me now.
So far, so good. Blockbuster sur France Inter.
Si les revenus augmentent d'année en année, les frais d'exploitation sont plus élevés que jamais. Nos actionnaires ont fait preuve de patience, mais ne nous voilons pas la face. Le dinosaure n'impressionne plus quiconque à notre époque. Il y a 20 ans, la résurrection d'une espèce tenait de la magie. Les jeunes d'aujourd'hui regardent un stégosaure comme un éléphant dans un zoo. Ce qui ne veut pas dire que nos développeurs chôment pour autant. Nos extracteurs d'ADN trouvent de nouvelles espèces chaque année. Mais notre public réclame toujours plus grand, plus féroce, plus de dents. La bonne nouvelle ? Nos avancées en termes de clonage ouvrent la porte d'une nouvelle ère. Nous avons bien plus appris de la génétique en moins d'une décennie qu'en un siècle à déterrer des ossements. Alors, quand vous dites vouloir être sponsor d'une attraction, qu'avez-vous à l'esprit ?
We want to be thrilled.
On veut frissonner.
Don't we all? Comme nous tous.
Vous venez d'entendre un extrait du film Jurassic World réalisé en 2015 par Colin Trevorrow avec Bryce Dallas Howard qui joue le rôle de Claire Deering, responsable en chef des opérations du parc de Jurassic World, et elle est doublée en français par Barbara Beretta. Florian Sorin, vous nous avez dit tout à l'heure que dès votre enfance, vous aviez une passion pour les dinosaures. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très très souvent, la passion des enfants pour les dinosaures. Est-ce que vous avez eu une origine à cet amour immodéré pour ces grandes bestioles ?
Alors, une origine précise, non, je sais pas. Après, je pense que la réponse qui convient à, la réponse facile et qui convient à tout le monde, c'est que les dinosaures, c'est cool, au même titre que les dragons, les robots géants ou les Jedi. Et moi, j'ai choisi les dinosaures. Après, pour une réponse un peu plus élaborée concernant ma passion plus pour Jurassic Park, en tout cas mon intérêt pour Jurassic Park, je citerai Ray Harryhausen qui, à la fin de sa carrière, a dit que la bonne recette pour faire un film de dinosaures, c'était de mettre à côté des dinosaures, de mettre des humains et de filmer les conséquences dramatiques qui résultaient de cette rencontre. Et je crois que c'est ce que fait Jurassic Park. En faisant cohabiter des dinosaures et des humains, il explore un petit peu cette fascination que moi j'ai et que beaucoup d'autres personnes ont. Et par procuration, il nous permet de nous confronter à cette rencontre qui n'est pas possible réellement. Et en tout cas, les trois premiers films de la trilogie, au moins, confrontaient la figure du scientifique ou du paléontologue qui rencontre un dinosaure, le chasseur qui rencontre un dinosaure, les enfants qui rencontrent un dinosaure. Et dans chaque film, il creusait un petit peu cet intérêt qu'on a tous plus ou moins inconsciemment.
Nous avons été rejoints par Serge Victoria, qui est directeur artistique chez Encore Productions, qui produit l'exposition Dino Alive, à voir à Paris Expo, Porte de Versailles, jusqu'au 31 août. Et je vous pose la question également, selon vous, d'où vient cette fascination quasiment intemporelle pour les dinosaures ?
Non, je pense que surtout la fascination, elle vient parce qu'en fait, ils ont vraiment existé. C'est ça, en fait, le truc qui change tout. Parce qu'en fait, on est vraiment dans un monde. On a créé le fantastique, marche à tous les coups. Mais là, c'est pas du fantastique, c'est du réel. Donc, ils ont vraiment existé. Donc, je pense que c'est là où ça va rester, et que ça continuera à fasciner. D'autant plus qu'on découvre encore des spécimens. Il n'y a jamais eu autant de records de voir ces spécimens incroyables. Mais je pense que c'est ça, surtout, c'est que ça a vraiment existé. Donc, nous, c'est ce qu'on a voulu proposer ou en tous les cas montrer à la porte de Versailles, c'est ce voyage immersif avec des reproductions. Il y a une quinzaine de dinosaures, il y a des expériences immersives, vous pouvez découvrir plein de choses et aussi apprendre des choses parce que c'est important.
Et c'est vrai que on parle de la franchise Jurassic Park qui a quand même encadrer visuellement l'image que l'on se fait des dinosaures. Pour toute une génération, un T-Rex ressemble au T-Rex tel qu'on l'a vu dans le film de Steven Spielberg. Quand on réalise une expo comme vous le faites aujourd'hui et qu'il y a une licence aussi forte qui existe, est-ce qu'on essaie de copier, d'être proche des représentations faites sur grand écran, ou est-ce qu'on s'en affranchit en allant plus vers le côté scientifique? Et peut-être que les deux se rencontrent et se répondent intelligemment.
Bon, déjà, il y a une marque, donc c'est difficile quand on n'a pas les droits sur la marque de l'utiliser. Mais en final, les dinosaures, c'est un sujet qui est large. Donc nous, on n'a pas, on ne s'est pas inspiré du film, puisque cette expo existe depuis un petit bout de temps. Mais surtout, on l'a construit avec des scientifiques, avec le Muséum d'Histoire Naturelle aussi de Belgique. Donc, c'est un travail à la fois ludique, enfin de scientifique, mais aussi de montrer des choses de façon ludique. C'est là aussi tout le pari de cette exposition. Et puis vraiment, vous êtes dans le monde physique, entre guillemets, qu'on a voulu reproduire. Alors évidemment, vous allez retrouver un peu des bases de Jurassic Park, parce qu'on va les voir dans un environnement où ils existaient. Donc, c'est sûr qu'on ne les voit pas au milieu des gratte-ciels.
Alors là, je vous pose la question à vous quatre, hein, parce que c'est vraiment l'élève très, très mauvais en biologie et en cours d'histoire qui vous pose la question. Combien de temps les dinosaures ont existé sur notre Terre pour qu'on se rende bien compte, en fait est-ce que l'un d'entre vous le sait ?
Pas assez. Parce qu'on ne les a pas vus.
Enfin, je crois qu'ils avaient... C'était 165 millions d'années, hein, je crois. Hein.
C'est plus de 150 millions d'années. Oui.
Donc, si on fait la différence avec les gens qui... Enfin, nous, sur Terre, je crois que c'est quoi? C'est 300 000 ans, nous, à peu près, le
donc, premier c'est nous, on a vécu une virgule par rapport à eux sur cette Terre.
Exactement, c'est vraiment...
Donc, techniquement, à côté, on est des petits joueurs.
Ah, oui, vraiment.
Les propriétaires de la Terre, c'était les dinosaures en termes de longévité sur le territoire.
Et puis, ça va prendre du temps avant qu'on les rattrape, ça, c'est sûr.
Et... justement, dans les derniers opus de Jurassic Park, la franchise Jurassic World désormais, on entend souvent dire « Oh, mais les dinosaures, désormais, le grand public s'est lassé, voilà, ils n'intéressent plus personne. » Est-ce que, justement, dans le monde réel, est-ce que on sent une désaffection du public pour ces sujets-là, ou est-ce que les enfants de tout âge sont toujours aussi fascinés par les dinosaures ?
Là, il y a mon filleul qui est en train d'écouter l'émission parce qu'il est fan de dinosaures. Donc, clairement, non, ça ne passe pas, cette obsession. J'étais comme lui à l'époque et ça continue. Ça ne passera pas, je pense.
Nicolas ?
Oui, alors moi, justement, samedi, j'ai emmené mon fils au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, Galerie Paléontologie. Il avait les yeux qui brillaient à chaque fois qu'on voyait les squelettes de dinosaures. Cette fascination, elle est constante. En fait, on en a un marqueur avec la saga Jurassic Park et Jurassic World parce que tous ces films-là ont systématiquement été rentables au cinéma, ce qui n'est pas le cas pour toutes les franchises de pop culture. Et donc, c'est un signe quand même assez fort. D'autant que, par exemple, certains films ont été mal accueillis par la critique. Et malgré tout, il y a quand même cette volonté de se confronter aux dinosaures, de les voir sur grand écran, parce que même si certains films sont moins bien réussis que d'autres, c'est quand même un grand spectacle d'aller voir un Jurassic Park ou un Jurassic World au cinéma. Et donc, cette fascination est constante. On le voit également dans le fait qu'il y a un développement très important de tout ce qui concerne les fictions autour des dinosaures, que ce soit les séries télévisées, les films également d'animation à destination des enfants. Et puis, il ne faut pas oublier que Jurassic Park, c'est une franchise qui a été très rentable grâce au merchandising, à tous les produits dérivés. Et moi, quand j'étais enfant, avec mes frères, on avait tous les dinos Jurassic Park, et ils continuent d'ailleurs à se vendre massivement. Donc en fait, cette fascination-là, elle est toujours très présente. Et je suis d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on sait qu'ils ont bel et bien existé.
Serge Victoria ?
Ouais, non, c'est pas du tout. Enfin, c'est un émerveillement intergénérationnel, j'ai envie de dire. Tout le monde, enfin, petit, grand, même quand on est grand, on a encore envie de voir. Voilà. Puis il y a aussi surtout la façon on a changé le regard, nous, dans cette exposition, en tous les cas, dans Dino Alive, il y a un nouveau regard. Par exemple, on évolue aussi sur la présentation des choses. On a cette année une expérience immersive qui est donc aussi, qui fait partie aussi de l'exposition. Donc on change le regard du spectateur qui va vivre une expérience différente, plus ludique, plus immersive aussi. Donc j'allais dire, on essaye de s'approcher, d'être le plus proche d'être dans le film en fait, jouer un acteur à l'intérieur du parc Dino Alive.
Donc vous pouvez me garantir quand même qu'il y a aucun spectateur ne sera mangé à l'issue de cette exposition?
Non, parce que on les nourris bien, donc ils sont très bien nourris avant que le public arrive, donc là il n'y aura pas de souci.
Très bien, très bien. Alors, on marque une petite pause musicale dans notre randonnée jurassique et on va écouter Allons voir de Feu Chatterton.
Que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, Et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve.
Inter. Blockbuster, Frédéric Sigrist.
Les grenouilles arboricoles peuvent moduler leurs infrarouges. On lui a transmis quelques brins de leur ADN pour mieux l'adapter au climat tropical. Mais de là à imaginer
qui vous y a autorisé.
You did. Vous, en l'occurrence.
Bigger.
Plus gros.
Scarier.
Plus effrayant.
Cooler,
plus
I believe, is
the word. Cool. C'est le terme que vous avez utilisé, je crois, dans votre mémo.
You cannot have.
Vous ne pouvez pas avoir un animal aux caractéristiques de prédateur surdéveloppé sans le comportement qui va avec.
Ce que vous faites ici.
What you have done.
Ce que vous avez fait.
The board will shut down this park.
Le CA va fermer le parc, saisir vos travaux, tout ce que vous avez créé.
And Hammond won't be there to protect you this time.
Et Hammond n'est plus là pour vous sauver la mise.
Rien de tout cela n'existerait si moi je n'étais pas là.
If I don't innovate,
si je m'arrête d'innover, une autre personne le fera.
Un second extrait du film de 2015, Jurassic World, avec le docteur Henry Wu, interprété par B.D. Wong et doublé en français par Daniel Lafourcade. Florian Sorin, si jamais vous deviez résumer quelles sont les thématiques profondes de Jurassic Park. Je sais que pour James Bond, on va dire voilà, espionnage, il y a la vodka martini, etc. Mais qu'est-ce qui résume profondément la franchise Jurassic Park selon vous?
Comme on a dit tout à l'heure, il y a d'abord ce que voulait y insuffler Michael Crichton, et notamment cette prise de conscience par rapport au pouvoir qu'on acquiert à travers la science et la génétique en particulier dans le cas de Jurassic Park. Spielberg y a insufflé quelque chose de plus onirique, et la responsabilité, en tout cas savoir où y prendre ses responsabilités quand on cherche à réaliser ses rêves. Et je pense effectivement qu'il y a une certaines questions, certaines problématiques qui tournent autour de la responsabilité. Alan Grant, dès le premier film, est amené à prendre ses responsabilités pour accompagner et pour sauver dans le parc les deux enfants avec qui il se retrouve. Dans la seconde trilogie, de la même manière, Claire Deering, qui est finalement l'héroïne de cette seconde trilogie, doit aussi prendre ses responsabilités. Alors, elle avait déjà des responsabilités au début du premier film, mais des responsabilités qui lui ont amené à prendre des décisions néfastes. Et au fil de la trilogie, elle doit s'adapter et prendre sur elle la responsabilité de ce qui s'est passé et des choix à faire par rapport aux dinosaures qui ont été recréés. Et d'une manière générale aussi, je pense que sur l'ensemble de la saga, une fois que les dinosaures ont été recréés, se pose la question de qu'est-ce qu'on doit en faire. Donc le monde perdu nous dit à la fin qu'on doit les laisser vivre, leur céder une parcelle de terre et les laisser vivre sans interférer. Ils ont gagné ce droit-là. Jurassic World Fallen Kingdom prend aussi la décision à la fin via le personnage de Maisie, prend la responsabilité là aussi de les laisser vivre. Et je pense que ça pose la question de la responsabilité de l'humanité de manière générale par rapport à ses actions et de savoir en accepter les conséquences, même si elle doit pour cela céder du terrain sur ses progrès, sur ce qu'elle a pu acquérir autrement.
Nicolas, Renaud, il y a aussi cette dimension film d'horreur pour enfants qui a toujours été très très forte, et je trouve dans les différents opus de Jurassic Park, selon moi, les plus réussis, il y a toujours cette thématique de il faut sauver les enfants d'une erreur qui est une erreur d'actionnaire adulte, et on entend souvent parler d'écologie, il faut penser aux générations futures. Jurassic Park et la franchise dans son ensemble, c'est une allégorie directe de il faut sauver les générations futures de mauvaises idées qu'on a eues, parce que même si ces animaux incarnent un visage de la nature, c'est une nature génétiquement modifiée par les hommes. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'ADN, sans mauvais jeu de mots, de Jurassic Park?
Oui, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, dans tous les films de la saga, il y a des enfants, sans exception, dans le dernier en date également. Et puis, dans les deux romans de Crichton également, on a à chaque fois deux enfants. Donc, et Crichton, d'ailleurs, dans son premier roman, Jurassic Park, montre que les dinosaures peuvent déjà s'échapper de l'île Isla Nublar sur laquelle ils se trouvent, et qu'ils vont tuer des bébés au Costa Rica et de jeunes enfants également qui sont mis en danger. Et donc, il y a toute une réflexion très intéressante sur le fait que, à vouloir jouer à l'apprenti sorcier, l'humanité non seulement se menace à court terme, mais menace également sa survie à travers ses propres enfants. Donc, il y a un avertissement très fort qui est mis en place ici. Et d'ailleurs, le roman de Crichton a une dimension anticapitaliste. Alors, il ne s'agit pas de dire que Crichton lui-même était contre le capitalisme, mais on va dire qu'il va en dénoncer les pires excès. Et donc, à travers cela, il ne s'agit pas simplement de dire « revenons à l'âge de pierre, abandonnons les sciences, abandonnons notre développement technologique, mais veillons à vraiment prêter beaucoup plus attention aux conséquences de nos actions, notamment pour ceux qui vont venir après nous. » Et c'est en cela d'ailleurs que la saga Jurassic Park a une dimension écologique, oui.
Renaud Besbourdier.
Et puis les enfants sont également une partie essentielle de toute la filmographie de Steven Spielberg. C'est vraiment le cinéaste de l'enfance, mais pas de l'enfance coupée du monde des adultes, comme vous l'avez dit. C'est vraiment l'enfance confrontée à l'horreur du monde des adultes, que ce soit dans des films plus historiques, plus complexes comme Empire du Soleil, ou des films plus enfantins comme E.T.
Même Fableman, d'ailleurs.
Ou comme Fableman, tout à fait. Son dernier film quasi autobiographique, hein, complètement autobiographique. Il met en scène cette rencontre, effectivement, et confronte, comme vous disait très bien, toujours en fait les erreurs, les excès des adultes et les impacts qu'on retrouve en fait sur les enfants derrière. Et je vous rejoins également aussi sur le point de l'écologie. En fait, Jurassic Park est une œuvre tellement riche et tellement foisonnante qu'on peut y lire aussi des choses qui n'étaient pas forcément là. Je me permets de recommander un excellent podcast français qui s'appelle Clever Girls de Raphaël Balanda-Beauvallet, dans lequel elle analyse à partir du Jurassic Park en fait le véganisme et le féminisme, puisque tous les dinosaures sur le parc sont féminins, et elle travaille en fait sur cette dimension-là, sur le rapport à la nature qu'impose le parc dans Jurassic Park, et la présence des dinosaures qui sont recréés, comme on l'a dit juste avant.
Et On met le doigt sur un paradoxe qui agite Hollywood très très fort aujourd'hui, où on a des films comme Jurassic Park qui ont un message très respectueux de la nature et de l'environnement, mais fait avec des créatures inventées en images de synthèse, et qui, c'est au diapason de ce que James Cameron fait avec Avatar, où on fait l'apologie d'une nature qui a été créée infographiquement parlant. Donc est-ce qu'il n'y a pas à la fois une sorte de paradoxe très moderne d'utiliser quelque chose qui n'est absolument pas naturel pour faire en sorte que les gens respectent l'environnement.
Mais c'est là en fait où toute la saga pour moi n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le premier film et que le postulat a été présenté qui est bon, créer ces dinosaures, c'était finalement une mauvaise idée. Pousser le cinéma vers là, c'était peut-être une mauvaise idée. Dans ce cas-là, toutes les suites aussi n'ont pas de sens. Et on va de plus en plus loin, effectivement, vers un cinéma qui tourne en rond, qui se mord la queue et effectivement, comme vous le disiez, n'a finalement plus beaucoup de sens.
Serge Victoria, quand on prépare une expo sur les dinosaures, c'est des créatures majestueuses qui ont vécu plus longtemps que nous, mais en même temps, aujourd'hui, c'est devenu une sorte, bah voilà, c'est des figurines pour enfants, c'est des films à grand spectacle, et on passe, c'est difficile de rappeler qu'il y a eu une réalité écologique très concrète pour ces animaux qui ont disparu. Donc comment on jongle avec tout ça? Parce que j'imagine que vous avez dû avoir affaire à des scientifiques qui, eux, sont... Non, il faut être très sérieux sur ce qu'on dit sur les dinosaures.
Non, c'est tout l'enjeu, en fait. Hein, c'est d'essayer de rester fidèle à la science, en finale, tout en proposant un récit engageant, ludique, immersive. Donc, et essayer de vulgariser aussi un peu aussi le côté scientifique de quand on travaille sur ce type d'exposition. Donc, c'est de rester fidèle aussi, évidemment, aux dinosaures. Enfin, en tous les cas, en essayant de les montrer le plus proche possible de ce qu'ils étaient. Mais l'expérience, elle doit captiver et en même temps informer. Donc c'est tout le travail qu'on fait aussi avec les paléontologues avec qui on a travaillé pour construire l'exposition.
Alors là, je vous pose une question à vous tous. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on peut instruire sans être obligatoirement divertissant? Est-ce que c'est encore possible ou est-ce qu'il faut automatiquement passer quand même par un aspect ludique pour que les gens adhèrent ou non à un message? Là, je me tourne vers Nicolas parce que je sais qu'à mon avis, c'est un sujet sur lequel il doit être régulièrement confronté.
Je suis professeur, donc oui. Effectivement... non, je crois qu'effectivement, on n'est pas obligé de divertir pour instruire. Les deux sont possibles, bien entendu, et je crois que ce qui est important, c'est de savoir varier justement la manière dont on s'adresse aux personnes que l'on veut instruire, s'adapter également en fonction de l'âge, des appétences, de la personnalité des gens, et que parfois, si on veut véritablement instruire avec précision, on est obligé justement de laisser de côté le divertissement pour que la concentration soit pleine et entière, pour que la connaissance soit précise. Justement, le livre que j'ai co-dirigé avec le paléontologue Jean-Sébastien Steyer, Jurassic Park et les sciences, on a confronté la fiction, donc moi, par exemple, j'ai fait l'étude des films et des romans de la saga et lui a essayé de montrer dans quelle mesure ces films étaient réalistes ou non d'un point de vue paléontologique. On a posé la question de savoir si on pouvait recréer les dinosaures. Donc, on a mêlé finalement les deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des chapitres qui vont être plus divertissants, qui vont s'adresser aux fans de la saga et d'autres qui vont s'adresser plutôt à des personnes qui ont envie d'avoir des réponses crédibles, précises d'un point de vue scientifique.
Et on parle de cette dualité entre culture, éducation et divertissement, mais il faut aussi préciser que Michael Crichton est l'auteur d'une série incroyablement connue et respectée qui a tout le temps jonglé entre la dimension réaliste et la dimension plutôt dramaturgiquement intéressante pour la télévision qui s'appelle Urgence.
Oui, d'ailleurs, il a fait des études de médecine à l'origine, Crichton, et donc il s'en inspire beaucoup, alors aussi bien pour Urgence, qui est effectivement une de ses grandes œuvres, une de ses grandes créations parallèlement à Jurassic Park. Et en fait, dans tous ses livres, on a régulièrement des références à la médecine qui ont été faites. Et c'est quelqu'un en fait qui était très fasciné par les sciences, qui se documentait beaucoup sur celles-ci. Et par exemple, il y a un autre de ses romans important pour ceux qui pourraient aimer Jurassic Park, c'est Congo, un roman qu'il a publié au début des années 80, où là, c'est vraiment le grand roman d'aventure qui se passe au cœur de l'Afrique, avec des primates qui sont relativement intelligents, ce qui peut un peu rappeler justement La planète des singes. Et ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, on retrouve à la fois cette fascination pour la nature, pour ce qui nous échappe, et cette question de la responsabilité qu'évoquait Florian tout à l'heure, puisque les hommes ensuite sont mis face à leur propre responsabilité quand ils sont en danger de mort.
Et j'ajouterai un film que j'ai vraiment, qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, Runaway avec Tom Selleck, L'évadé du futur, voilà, écrit aussi par Michael Crichton, et qui m'avait marqué. Donc voilà, oldies but goodies. On va attaquer la troisième partie, tel un raptor qui n'aimerait pas Chris Pratt, on peut le comprendre, mais avant cela, on écoute Here is the Thing de Fountain D.C.
Frédéric Sigrist sur France Inter.
Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park.
On a besoin de l'ADN des trois plus gros dinosaures.
On est forcé de le prélever sur un œuf.
On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16.
Si vous pouviez faire vite.
Oh merde.
Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Oh, dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici.
Amène-moi ! Vous venez d'entendre la bande-annonce de Jurassic World Renaissance réalisée par Gareth Edwards et en salle à partir du 4 juillet 2025. Florian Sorin, après les trois premiers Jurassic Park sont arrivés les Jurassic World et j'aimerais avoir votre point de vue, pour vous qui êtes fan de toute cette franchise, sur l'expansion justement de cette dernière. On a eu Colin Trevorrow, Juan Antonio Bayona et enfin Gareth Edwards. Comment vous avez vécu cette évolution en tant que spectateur ?
Alors, il faut se rappeler que Jurassic World, quand il sort en 2015, on sort d'une traversée du désert de quasiment 14 ans, qui avait été assez compliquée quand on était attaché à la licence Jurassic Park à l'époque. Mm-hmm. On est plutôt reconnaissant de la renaissance de cette saga. Après, on n'est pas toujours d'accord avec les orientations qu'elle a pu prendre, notamment un côté certaine marvelisation, on va dire, de la licence, avec du toujours plus gros, des hybrides, et on a tendance à s'éloigner de ce qui faisait pour moi la force de la première trilogie, qui est, comme je disais tout à l'heure, de juxtaposer des humains et des dinosaures et de regarder ce qu'il en découle sur un point de vue émotionnel, on va dire.
Mais alors, est-ce que c'est vraiment une... Parce que vous avez parlé de marvelisation, mais est-ce que c'est vraiment, pour le coup, à mettre au déficit des productions Marvel, ou plutôt aussi à des films tels que Pacific Rim, Godzilla, où effectivement, on a eu des modèles de dinosaures ou de mutants plus gros, et qui ont fait que pour concurrencer un petit peu, il faut aussi que les dinosaures du parc ont la nécessité de devenir un peu plus costauds.
Effectivement, il se pose la question de comment, une fois qu'on a montré les dinosaures et le premier film montrait déjà les plus gros et les plus connus, comment on se renouvelle. Donc il y a effectivement Pacific Rim ou Godzilla avait montré la voie, et donc Jurassic World a suivi dans cette voie-là. J'ai utilisé le terme merveillisation, pour moi c'était plus dans le sens créer une licence permanente, là où auparavant Jurassic Park c'était plutôt ponctuel, tous les 4 ans on avait un film, mais il n'y avait pas forcément de stratégie globale. Là aujourd'hui on est vraiment, donc on a eu, on va avoir 4 films en 10 ans, on a 2 séries animées, la 3 gros jeux vidéo, enfin la licence est devenue permanente, mais voilà, dans... Il y a forcément à multiplier les déclinaisons, il y a du bon et du mauvais. Moi, j'ai très hâte de voir ce que va nous proposer Jurassic World Renaissance pour renouveler tout ça.
Et jusqu'à maintenant, en faisant abstraction de Renaissance que vous n'avez pas encore vu, quel est votre film préféré ?
De la licence Jurassic Park, c'est le premier. Je pense que oui, c'est très difficile de
On a dépensé sans compter.
Pardon, je vous ai mal entendu.
On a dépensé sans compter.
Voilà, on a dépensé sans compter. Et puis surtout, ce que les personnages découvraient à l'époque, des dinosaures vivants face à eux, nous, au cinéma, enfin, on n'en a pas vraiment parlé, mais Jurassic Park, pardon, ça a été vraiment une pierre angulaire dans l'histoire des effets spéciaux au cinéma, et vraiment l'ouverture d'une porte qui aujourd'hui a amené à tous les possibles, et rien n'est impossible à montrer sur un écran. Et à cette époque-là, nous aussi, on se rendait compte que, comme les personnages du film, on prenait conscience de ce qu'on était en train de voir, et ce qui nous était montré à l'écran, c'est ce qui nous serait donné de plus proche de voir des dinosaures vivants.
Renaud Besbourdier, c'est vrai qu'on parle de la claque qu'ont représenté les effets spéciaux de Jurassic Park, et souvent ça a tendance à occulter ce qui, moi, me séduit toujours autant, après autant d'années, c'est la mise en scène de Steven Spielberg. C'est même dans le deuxième opus, la scène où la caravane tombe à flanc de montagne quand ils se font attaquer par les deux tyrannosaures, c'est à montrer dans les écoles. En termes de, on sait exactement où les personnages se situent les uns par rapport aux autres, il y a une idée de suspense, etc. On a vraiment l'impression que pour Steven Spielberg, c'est aussi des exercices de style, ces films.
Je vous confirme qu'on les montre dans les écoles. Après, je ne sais pas si c'est un exercice de style pour lui, dans le sens où je pense que Steven Spielberg est le cinéaste le plus instinctif qui soit. Il a un talent de la mise en scène qui fait qu'il arrive à aller tout de suite vers l'émotion. Je vais citer une scène du premier film pour ça, justement, qui fait écho à ce que vous disiez sur les effets spéciaux. C'est la première apparition des dinosaures. Donc c'est une scène très connue aujourd'hui. Donc les personnages sont dans une Jeep et arrivent. Et en fait, on les voit eux. On va d'abord zoomer très lentement sur le visage d'Alan Grant, et on va le suivre qui se lève, qui enlève fébrilement ses lunettes, et on ne montre pas encore ce qu'il voit, et on laisse un long moment avant de les montrer. Une fois qu'on les voit, et qu'on les voit aujourd'hui, les effets spéciaux qui sont ici en images de synthèse, les dinosaures sont, à nos yeux aujourd'hui en 2025, assez mal faits. Mais peu importe, parce que la scène est réussie par sa mise en scène, par son habillage avec la musique de John Williams, bien sûr aussi, mais parce qu'effectivement, Spielberg réussit à nous faire ressentir ce que les personnages ressentent dans sa mise en scène, dans sa manière de diriger les acteurs et de filmer et d'accompagner leurs mouvements avec la caméra, tout comme on accompagne leurs émotions.
Nicolas Allard, il y a aussi, je me souviens, dans le premier, ce plan où on voit le Raptor avec les lignes de code de l'ordinateur qui se reflètent sur sa peau, et on voit des 0-1, et il y a une mise en abîme à la fois parce que c'est des animaux qui ont été recréés génétiquement, mais aussi parce que ce sont des créatures numériques au moment où les enfants se cachent dans la cuisine. Il y a des tonnes d'idées qui visuellement frappent, quoi.
Oui, tout à fait. Et je trouve d'ailleurs que, puisqu'on parlait de la saga de façon générale, elle est un peu orpheline, en fait, de Spielberg. C'est-à-dire que les deux premiers films, alors le deuxième est peut-être un peu moins abouti, mais les deux premiers films sont quand même globalement très appréciés des fans de la franchise. Et ensuite, même s'il peut y avoir encore des bonnes idées, des mises en scène intéressantes, on perd quand même en qualité. C'est vrai que Spielberg, ce n'est pas pour rien que c'est quand même le grand maître des blockbusters américains, des films de science-fiction. Et moi, par exemple, Le premier film, quand je l'ai vu étant enfant, il m'a terrifié tout en me fascinant. Et j'ai jamais vraiment retrouvé justement cette terreur-là dans les films suivants, alors qu'il y avait beaucoup plus de moyens. Et comme cela a été très justement signalé tout à l'heure, en fait, Spielberg, il arrive avec peu de choses, comme dans Les Dents de la Mer qui fêtent leurs 50 ans cette année, eh bien, à nous faire peur, parce que tout est dans la suggestion, dans ce qui n'est pas montré.
Oui, l'arrivée du T-Rex avec ce verre d'eau qui ondule, ou même cette flaque d'eau avec la patte du T-Rex.
Avec des cordes de guitare sous la voiture pour faire bouger le verre.
Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est quand même un grand maître. Et en fait, si on regarde de façon plus générale, c'est comme les romans de Crichton, on en a deux en fait. Et la saga ensuite s'est développée sans ces romans-là, qu'elle a toujours essayé d'exploiter malgré tout. Ben, on ne remplace pas aussi facilement Crichton et Spielberg.
Ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas Allard, merci Florian Sorin, merci Serge Victoria et merci Renaud Besse-Bourdier d'avoir évoqué pour cette première émission de cette ultime saison Jurassic Park. J'aimerais également remercier Étienne Bertin qui réalise cette émission, une émission préparée par Lisiane Larbani et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amadaïn Guest et aujourd'hui à la technique Benjamin Wagon. Vous pouvez comme toujours nous laisser un message au 01 56 40 30 20, c'est votre répondeur pour cette ultime saison, ou venir converser joyeusement avec moi sur Instagram. Vous pouvez aussi suggérer vos sujets à ce même endroit bien entendu, et puis même me parler, c'est bien aussi. C'est la fin de cette émission, on se retrouve demain pour parler d'une série culte sur la transidentité temporelle. Je parle de Code Quantum.
Tu le vois le bâton? Tu le vois le bâton, hein? Regarde le bâton, regarde! Le bâton abruti! Va chercher le bâton! Allez, va chercher! Tu le vois bien le bâton, alors va le chercher! Eh ben c'est normal que ta race ait disparu. Je t'écraserai à mon retour!